Scientifique, géologue, aventurier polaire, défenseur des peuples premiers, écrivain, l'homme que je reçois cet après-midi est un esprit libre dont le regard est toujours resté tourné vers les grandes steppes de Russie ou les banquises du Grand Nord. Jean Mallory est dans un instant l'invité exceptionnel de La Tête au Carré. Alors que l'Arctique enregistre des records de température, il publie une lettre en forme de cri d'alarme à un Inuit de 2022. Nous reviendrons avec lui sur son parcours depuis ses premiers voyages avec Paul-Émile Victor jusqu'à son rôle d'ambassadeur de l'UNESCO en passant par la création de la collection Terre Humaine. L'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages, comme d'habitude. Toute cette semaine, nous revenons à la une sur les actualités marquantes de 2015. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et aujourd'hui, on évoque la première spermatogénèse in vitro réalisée par une équipe française.
Oui Mathieu, c'était en septembre, des chercheurs lyonnais dévoilaient au monde entier les photos de leurs spermatozoïdes humains entièrement produits en laboratoire. Nous revenons avec eux dans un instant sur cette première à la une.
Céline Hila est aux commandes de notre émission aujourd'hui avec un dossier préparé par Carole Sauvage.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Jean Mallory.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui.
Merci.
Dans La Tête au Carré, c'est la première fois qu'on se croise derrière un micro. Vous publiez Lettre à un Inuit de 2022 et le sous-titre de votre livre, Un regard angoissé sur le destin d'un peuple. Lorsqu'on regarde votre parcours d'aventurier des grands espaces, on a du mal à vous imaginer dans la peau d'un homme angoissé. C'est vraiment un mot qui vous convient, ça ?
Dans l'Arctique, je suis serein. Car il y a, c'est abusif, du paléolithique en moi. Mmh. Donc, avec ces hommes, et surtout dans cet espace, je suis dans mon rythme, dans le milieu que je souhaitais ressentir. Et peu à peu, ces hommes, que l'on juge en arrière de l'histoire, se sont découverts tout à fait différents, avec une très forte personnalité, et ils m'ont ouvert à ce que j'appelle l'animisme. Et l'animisme n'est pas de la sorcellerie. Il conduit au confucianisme, au shintoïsme, à des grandes perceptions du monde.
Mais ça, c'est pas de nature à vous angoisser, ça.
Non, mais ce qui m'angoisse, c'est le progrès. Le progrès que l'Occident représente, l'Occident dont je fais partie, et qui n'a pas pris conscience qu'il y a de par le monde un ordre des peuples. Il y a un ordre de la nature, la COP21 en a rendu compte. Nous osons, j'oserais-je dire, explorer même le spermatozoïde.
On va le voir dans un instant.
Et l'inventer. La science ne comprend pas qu'elle a des limites. Et en matière de climat, il y a un début d'avertissement. Mais ce que nous n'avons pas compris, nous occidentaux, c'est qu'il y a un ordre des peuples. Et que les peuples qu'on dirait derniers seront peut-être les premiers.
Et on
peut-être
a beaucoup
que
de...
les peuples ouais. primitifs sont des peuples qui pourraient nous enseigner une autre philosophie. Et je milite pour un institut, non pas de l'art premier, comme ainsi que je le disais à mon ami Jacques Chirac, mais un institut de la pensée première.
On va y revenir avec vous, Jean Mallory, pour évoquer votre parcours hors du commun et bien sûr votre défense du peuple inuit. On se retrouve dans un instant. Vous êtes l'invité de La Tête au Carré. Et la fertilité masculine, aujourd'hui, à la une de la science.
Au tout début, c'est bien connu. Il y a la semence déposée par l'homme dans le ventre de la femme. Des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un.
Voilà, et comment faire justement lorsqu'on souhaite être parent et qu'on n'a pas un seul de ces précieux spermatozoïdes? Eh bien, la solution, vous l'avez probablement trouvée, Philippe Durand et Marie-Hélène Perard. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
C'était le 17 septembre dernier. Racontez-nous l'objet de votre découverte.
Eh bien, on a pu réaliser in vitro toute la spermatogénèse grâce à la collaboration que nous avons eue avec un chimiste. Nous avons mis en culture des tubes séminifères humains dans un bioréacteur qui a été élaboré par ce chimiste. Il s'agit de tubes de chitosane. Et on a pu ainsi réaliser toute la dernière étape. Nous avions un système de culture auparavant qui ne réalisait que les deux premières étapes. Et on avait un arrêt à la spermatide ronde, qui est le précurseur direct des spermatozoïdes. Et grâce à la culture que nous avons réalisée dans ce tube de chitosan, eh bien, nous avons pu réaliser la troisième étape de la spermatogénèse, c'est-à-dire la spermiogénèse, le passage de la spermatide ronde au spermatozoïde.
Votre découverte a été beaucoup reprise depuis 4 mois. Quelles ont été les réactions de la communauté autour de vous et même des particuliers ?
Alors les particuliers, ils nous ont beaucoup écrit par mail. C'est assez saisissant et même très touchant. On a reçu plus de 400 mails du monde entier d'hommes qui sont infertiles ou de couples qui n'arrivent pas à avoir d'enfants et qui demandent éventuellement s'ils pourraient participer lorsque les premiers essais cliniques seront lancés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement touchant pour nous, parce que c'est vrai que les gens qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est souvent un drame pour eux. Et donc, si on peut les aider, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous motive énormément, oui, bien sûr.
Alors, sauf qu'il y a évidemment le temps de la science, hein, Philippe Durand et Marilyn Perard, qui est très long, et il y a des promesses évidemment extraordinaires derrière cette prouesse que vous avez réalisée. C'est compliqué de dire à ses parents, justement, que ça va demander encore plusieurs années avant de pouvoir réellement passer à l'homme.
Oui, les gens sont très impatients. Même des fois, ils se proposent pour être cobayes pour la technique, mais ça, on ne peut pas. Et c'est vrai qu'on est obligé de leur répondre que ça ne sera pas avant 4 ou 5 ans qu'on pourra mettre sur le marché cette expérience.
En septembre, vous nous disiez vouloir tester votre méthode d'abord sur les rats. Où en êtes-vous aujourd'hui ?
Pour pouvoir faire une ICSI, donc une injection intracytoplasmique d'une tête d'un spermatozoïde dans un ovocyte, il faut quand même récupérer un certain nombre de spermatozoïdes pour que les biologistes qui pratiquent ce genre de technique, l'ICSI, puissent travailler. Donc, on en est maintenant, justement, à essayer de récupérer dans les meilleures conditions possibles un nombre suffisant de spermatozoïdes pour pouvoir faire cette micro-injection. Une fois que la micro-injection est faite dans l'ovocyte, il faut transplanter cet ovocyte dans une femelle receveuse qui a été préparée pour ça, et puis attendre que les petits ratons naissent. Donc on en est à optimiser le rendement, la récupération des spermatozoïdes qu'on obtient en culture.
Alors, la technologie, évidemment, était essentielle dans cette prouesse, puisque vous le disiez tout à l'heure, vous avez mis en culture des cellules souches de bulbes testiculaires grâce à des bioréacteurs. On peut peut-être citer quand même le nom de Laurent David, hein, qui est à l'origine aussi de cette prouesse.
Oui, c'est l'association de son savoir-faire et d'une autre qui a fait que ça a fonctionné.
Et vous avez donc déposé ensemble un brevet de la méthode. Par contre, il n'y a toujours pas de publication dans une revue à comité de lecture. Comment est-ce que vous expliquez ce délai ?
On a évidemment, c'est quand même une première mondiale, on en est quand même assez content. Donc on a voulu cibler des journaux généralistes, des journaux scientifiques généralistes, qui s'adressent donc à des communautés scientifiques d'horizons très différents, en particulier en médecine. Et finalement, c'est vrai que c'est un peu surprenant parfois les retours qu'on reçoit, puisque jusqu'à présent, les revues qu'on a ciblées nous disent « oui, ça serait mieux de publier ailleurs ». Les reviewers nous ont pas dit que la science n'était pas bonne, mais il nous semble que ça serait mieux de s'adresser dans un journal qui draine plutôt les gens de votre spécialité. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu surprenant, voire désespérant. Maintenant, de toute façon, qu'on a déposé le brevet, on a un peu plus de temps pour faire passer la publication, même si le temps presse quand même, parce que c'est quand même une bonne chose d'avoir l'aval d'un journal scientifique, quoi.
On n'en arrive pas du tout encore à l'application chez l'homme, mais peut-être un jour. Est-ce que vous pensez que ce genre de première, de test avec des spermatozoïdes humains serait accepté en France ?
Alors ça... On va dépendre de l'agence de biomédecine. Ce sont eux qui vont donner les règles à suivre. Et pour le moment, on n'a pas bien de réponse à ce jour.
Mais vous êtes conscient qu'il y a des questions éthiques, évidemment, qui se posent aussi autour de ces pratiques.
Tout à fait, tout à fait. De toute façon, c'est normal aussi. Enfin, on ne veut pas faire n'importe quoi. Bon, déjà, si dans une espèce rongeur ou même primate, puisqu'on a fait aussi cette spermatogénèse in vitro chez un singe qui s'appelle le Cynomolgus manqué. Donc, c'est sûr que ça donnera déjà des arguments. Si les petits qui naissent sont normaux, ça donnera des arguments positifs pour penser que les spermatozoïdes humains, eux aussi, sont normaux. Mais effectivement, il y a un certain nombre de contraintes éthiques et réglementaires auxquelles il faut qu'on se plie, et ça, c'est tout à fait légitime.
Voilà, donc ces spermatozoïdes complets et fonctionnels in vitro, c'était un des événements quand même de l'année scientifique, Axel, à la une de la science donc aujourd'hui.
Et on vous souhaite du courage, et peut-être à bientôt.
Et une bonne fin d'année, merci Marie-Hélène Perra. Et Philippe Durand, bonne chance à vous. On espère vous retrouver bientôt dans La Tête au Carré. À bientôt. Allez, dans un instant, notre invité, Jean Mallory.
Choisi d'être seul ici, pas choisi d'être une anomalie. Va voir ailleurs et viens voir ici. Non, pas choisi d'être seul ici. Suis-je un humain sans futur, un matériau à autour d'usure. J'ai pas voulu, pourtant c'est ainsi. J'ai pas choisi d'être seul ici. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. J'ai pas choisi d'être seul ici. J'ai pas choisi, pourtant c'est ainsi. Va voir là-bas, j'y suis moi aussi. J'ai choisi d'être une anomalie. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, un grain de poussière au combat. Si loin de moi, même moi, un grain de poussière ici-bas.
Même toi, même toi.
Si loin de moi,
même moi.
Même toi, tout tourne autour de moi. Même moi, tout tourne autour de toi. Même moi, tout tourne autour de moi. Même toi, tout tourne autour de toi. Même toi, tout tourne autour de moi. Même moi. Si loin de moi, un grain de poussière ici-bas. Si loin de moi, au combat. Si loin de moi,
même moi,
un grain de poussière ici-bas.
Même toi,
si loin de moi,
même moi,
un grain de poussière au combat.
Même toi,
Anomalie, Louise Attaque.
La tête. Je ne crois pas que je sois spécialement impatient, Canon, mais je voudrais savoir combien nous prendra un tel voyage.
Au carré.
Seulement 2543 ans, 4 mois et 10 jours. Je sais que vous aimez l'exactitude. Je vous en remercie.
Sur France Inter.
Jean Mallory, quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans La Tête au Carré à l'occasion de la publication de votre livre aux éditions Fayard, Lettre à un Inuit de 2022, sous-titré Un regard angoissé sur le destin d'un peuple. C'est donc un cri d'alarme que vous lancez dans cet ouvrage au peuple du Groenland. Et que vous secouez aussi d'une certaine manière, parce que vous leur dites, il faut vous réveiller les gars là, hein, il y a urgence, hein, et vous ne voyez pas le danger venir.
C'est un peuple qui a 10 000 ans, ils ont affronté des climats terribles, et bien que nomades, ne sont jamais partis vers le sud, contrairement aux Indiens peaux rouges. Leur biotope, c'est la glace, c'est le froid, et les changements de climat, ils ont toujours su s'adapter. Naturellement, il y a eu des famines, il y a des groupes qui ont disparu, mais il y a une relation intime avec la nature qu'il m'est très difficile dans cette émission de faire percevoir.
Oui, pourquoi ?
Parce que les mots ne répondent pas à la vérité. C'est une relation singulière entre l'homme et l'invisible, entre des forces qui sont physico-chimiques et qui établissent un écosystème. Et ces hommes qui ont des chamans ont une sagesse. Et ils ont le sentiment que la science européenne, la science américaine, la science de l'homme blanc nous conduit à notre perte.
Ouais. Et alors, c'est une science en plus et une technologie qui s'intéresse aussi aux richesses du Groenland quand même, parce que c'est un pays, une terre qui est très convoitée et qu'on va dépouiller probablement de ses richesses.
D'abord, la première richesse, c'est sa position géographique, géostratégique extraordinaire. Je suis le témoin, en juin 51, de l'invasion de Thulé par une force secrète de l'US Air Force qui construit une base nucléaire pour éventuellement écraser Moscou et Pékin de bombes nucléaires. À la demande du chaman, Outak, accompagné de deux chasseurs armés de fusils, j'ai dit au général « Go home, vous n'êtes pas le bienvenu ». Le chaman voyait loin. Quelques années plus tard, un B-52 s'est écrasé avec quatre bombes H. Trois se sont pulvérisées, contaminant ces eaux virginales de ce pôle que l'on dit apollinien, qui est un haut lieu dans l'histoire mythologique. Et une quatrième est toujours sous l'eau. On ne peut pas dire que le progrès ait réellement ouvert le Grand Nord à un grand destin.
Jean Mallory, en 69, vous réalisez votre premier film pour la télévision française, justement, intitulé « Les derniers rois de Thulé ». Extrait.
Nous sommes ici à Thulé, avec les Esquimaux polaires les plus nordiques. C'est la fin de l'hiver, le jour se lève après une longue et dure nuit de 3 mois. Il fait moins 30 degrés. Les chasseurs se sont dispersés pour assurer leur survie. Ces animaux humains, ainsi ont-ils été jugés lors des premières rencontres, s'efforcent dans un trou de glace, au travers d'une épaisse banquise de 2 mètres, de pêcher des poissons qui ressemblent aux limandes de nos régions. Les deux guetteurs remarquent un léger frémissement du fil, un geste d'Inuttersuak, le plus habile pêcheur au dire de tous, et la ligne méthodiquement étirée.
Voilà, on y est avec vous Jean Mallory, là. On sent, on voit cette neige qui craque sous nos pas, avec bien cet hivernage que vous avez réalisé en 1950, et cette vie partagée avec les habitants de Thulé.
J'étais seul,
ouais.
Sans crédit, car j'ai voulu devancer lors de mission du CNRS.
Ouais.
Ce fut ma chance.
Déjà un homme pressé.
Sans crédit,
ouais.
Donc en immersion avec ce peuple, ils sont 302, j'ai appris leur langue, j'ai vécu comme eux, et peu à peu j'ai découvert non seulement qu'ils avaient une sagesse, mais que de ces glaces, de ces montagnes, de cette roche ordovicienne qui a 500 millions d'années, émanait une force invisible. C'est difficile, avec des mots cartésiens, de faire comprendre cette énergie de la matière,
ouais.
Cette sagesse de notre univers. Il y a là une possibilité de compréhension d'un ordre qu'il ne faut pas dépasser. C'est le rôle des chamans. Malheureusement, vous, moi, appartenant à un Occident qui est raciste, le racisme, il est inhérent. Nous l'avons été avec les Noirs, combien de siècles. Mais nous le restons. C'est un racisme dramatique qui fait que un immense capital, qui est le capital de l'histoire du monde, est tous les 15 jours perdu. Tous les 15 jours, une langue disparaît.
On écoutera Paul-Émile Victor d'ailleurs, hein, qui avait exactement les mêmes propos que vous aujourd'hui. Vous parlez de la glace précisément, Jean Mallory. On apprenait il y a quelques jours que l'Arctique avait enregistré des records de température et ça fait l'objet d'un reportage dans le journal de France Inter le 16 décembre.
L'année 1948 paraît bien loin aujourd'hui. À cette époque-là, l'explorateur Paul-Émile Victor raconte son expédition au pôle Nord. Sur le bateau, les hommes guettent la glace en fumant la pipe.
Salut, quel but cette fois ? Le désert de glace du Groenland. Ce soir, tous les yeux sont braqués vers tribord où apparaît une chaîne de montagnes couverte de neige et de glace.
Aujourd'hui, la glace fond, la banquise régresse en surface et en épaisseur. Il fait en moyenne 3 degrés de plus qu'au début du XXe siècle. Et l'Arctique se réchauffe deux fois plus vite que d'autres régions de la planète. Un autre explorateur, Jean-Louis Etienne, expliquait récemment pourquoi sur France Inter.
L'Arctique est touché d'une manière beaucoup plus forte que l'ensemble des régions du monde pour une raison simple, c'est que l'Arctique change de couleur. C'était une région qui était blanche pratiquement toute l'année, recouverte de glace qui réfléchit le rayonnement solaire. Aujourd'hui, il y a des zones qui se découvrent et sur l'océan et sur les terres et deviennent des capteurs. Donc accélère, si vous voulez, le fait que l'Arctique se réchauffe et libère en même temps davantage de méthane. Donc c'est devenu un acteur sérieux du changement climatique.
Exemple de conséquences sur la faune, les morses qui utilisent la glace pour se nourrir, pour s'accoupler, pour mettre bas, cherchent refuge sur la terre ferme, en Alaska par exemple. Mais ils sont trop nombreux et peinent à s'alimenter, souligne le rapport.
Voilà ce reportage de Julie Pietri. Jean-Mallory, qu'est-ce que ça vous inspire? Ces températures qui n'ont jamais été aussi élevées en 115 ans.
Vous savez, l'histoire de l'Arctique et l'histoire de l'univers est longue. Il y a eu des réchauffements. Il a été très important au début de l'ère chrétienne au Groenland, jusqu'en 1500. Puis il y a une période de glace, une période froide, The Little Ice Age. C'est l'histoire de l'Arctique. L'Arctique, pour de nombreux peuplements, en son réchauffement, apporte la fortune. Il y a, bien sûr, les glaces vont être libérées, mais il y aura des mers libres.
Donc c'est des voies de passage pour les bateaux.
C'est une voie de passage, ouais. C'est la fortune. Et comment on a dénaturé ces peuples? En leur faisant oublier leur sagesse, qui est leur sagesse chamanique, leur lecture de la glace, la lecture des équilibres, avec des interdits dans les périodes froides, d'autres libertés dans les périodes favorables. Ces peuples ne savent plus à quel saint se vouer. Et cette jeunesse qui est au Groenland connaît des taux de suicide véritablement pas alarmants, dramatiques. Ce que je veux dire, c'est que il faut prendre la mesure de l'univers à l'échelle de toutes les latitudes. Ce réchauffement en nord de la Sibérie, au nord du Canada, permet le passage du Nord-Ouest, permet aux grandes nations d'exploiter le pétrole, d'exploiter le minerai. Le malheur du Groenland, c'est qu'ils ont des grands minerais, l'uranium, et tout récemment, le ministre de l'Industrie de Pékin est venu rencontrer le jeune gouvernement du Groenland pour exploiter l'uranium. Après les Chinois, le président sud-coréen visitait le Groenland dans le même but. Voilà donc des peuples déculturés par l'Église, déculturés par l'école, donc ayant perdu leur sagesse, et qu'on invite à participer à une société de profit. Et ils voient bien que c'est leur ruine, et qu'ils seront, comme dans certains pays africains, l'objet de grandes opérations des sociétés qui s'enrichiront, ouais. Le peuple étant profondément appauvri.
Voilà un exemple concret des conséquences précisément de la fonte de la glace. On poursuit cette discussion ensemble, Jean-Mallory, dans un instant. Lettre à un Inuit de 2022, mais le temps presse, on le sent bien avec vous, c'est chez Fayard. À tout de suite.
And I wait to make a new start, a new beginning, but it feels like the end. And it takes one to know one, and I'm really not sure if I could put things back together like before. My conviction.
Half Moon Run.
La tête au carré, Mathieu Vidard.
Jean Mallory, quel destin. Vous êtes le premier homme au monde à être allé, par exemple, au pôle Nord magnétique. C'était en 1951. On va parler, bien sûr, de votre défense des Inuits. Et la COP21, c'était il y a quelques jours à Paris. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce grand rendez-vous sur le climat? Est-ce que, justement, les Inuits ont eu leur part dans ce grand rendez-vous diplomatique?
J'ai été invité, j'ai été d'autant plus invité que lors de la séance de film est passé un film américain qui est mon portrait et qui est un hommage. Je n'y suis pas allé parce que les Inuits n'étaient pas invités.
Ouais. Et donc vous avez marqué votre mécontentement?
Ben naturellement. Ouais. D'autant plus que j'ai été invité le surlendemain par l'ambassadrice des États-Unis lors d'un dîner où j'ai rencontré tous les partenaires de cette grande conférence, mais je n'ai surtout vu que des banquiers.
Ouais.
Et nous étions une centaine. J'ai rencontré, Dieu merci, mon ami Brice Lalonde, et nous avons pu parler de cette conférence. Mais en effet, les autochtones ne pouvaient pas être invités parce qu'ils sont sous tutelle. Et c'est les États. Je salue naturellement le ministre Fabius qui a réalisé une opération extraordinaire. Mais pardonnez-moi, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a aussi les peuples, et les peuples qui depuis des millénaires ont un avis. Et ce qui est très difficile, et ce que je souhaite faire passer dans cette émission, c'est qu'on est toujours ému quand on parle des Inuits ou des peuples, il y a de la Sibérie, l'Orar, mais c'est esthétique notre réaction. Ce que l'on ne voit pas, c'est que derrière ces manteaux en peau de poisson, il y a une pensée. Ce que je voudrais, c'est que ceux qui m'écoutent comprennent qu'il y a une pensée. Tout à l'heure, vous avez introduit l'émission avec ces prouesses de...
spermatogénèse.
Ouais. Artificielle. Mais science sans conscience ne peut conduire qu'à au malheur.
Ouais, vous êtes très critique. Hein.
Je ne suis pas critique, mais je me souviens des propos de Einstein disant « Mais surtout, arrêtons dans la ligne que j'ai ouverte, c'est la fin de l'univers ». Alors, à propos de la conférence des COP21, naturellement, je souhaite qu'il y ait maîtrise des changements de climat, maîtrise des pollutions. Mais s'il vous plaît, dans le même temps, nous construisons des bombes nucléaires, il y a des sous-marins nucléaires sous les glaces du pôle, il faut être intelligent et comprendre que l'homme blanc, l'Occident, est en train de creuser sa tombe. Et les peuples derniers seront peut-être les premiers pour essayer de nous rappeler ce qu'on appelle la sagesse.
Si on arrive à les écouter et à les entendre. On va écouter François Hollande, Jean Mallory, qui, quelques semaines avant la COP21, se rendait justement en octobre 2015 en Arctique.
La fonte d'un glacier, c'est en quelques années que ça s'opère. Puisque ici, le glacier recule de 50 mètres par an. Donc je suis très pessimiste si on ne fait rien. Et en même temps, je suis davantage confiant sur les chances de l'accord à Paris, en raison justement de cette mobilisation, de cette révélation qui a été faite ces derniers mois au monde, qu'il pouvait voir sa pérennité être mise en cause si rien n'était fait. Donc voilà pourquoi moi je considère que l'objectif n'est pas simplement un accord, c'est un accord très élevé dans ses engagements et vérifiable ensuite. Parce que si on vient à Paris, on signe des textes et que finalement les engagements ne sont pas respectés, on aura menti au peuple du monde et aux générations qui peuvent légitimement s'inquiéter.
Jean Mallory, on a un président qui s'intéresse à la nature, c'est formidable, non?
Oui, mais il faut s'intéresser aussi aux hommes. Il y a des peuples. Ces peuples, ils sont 1 million d'hommes et de femmes, indiens, subarctiques, inuits, sames, nord-sibériens. Il se trouve que la grâce de l'histoire a fait que en 1990, j'ai été mis par le président Gorbatchev à la tête d'une expédition soviétique en Tchoukotka, où j'ai découvert un Stone Age prodigieux qui s'appelle l'allée des baleines,
ouais,
qui montre qu'au XIVe siècle, ces peuples, avec des baleines qui ont 20 mètres de long, qui pèsent des tonnes et des tonnes, personnes ont construit un site très singulier qui a une cosmodramaturgie, où ils prouvent qu'ils ont une science des nombres. Les crânes que j'ai étudiés et disposés le long de la côte démontrent des rapports pair-impair de science yiking. Bref, une science complexe et qui répond un peu à ce que dit de moi un philosophe. Le jour, ma pensée est cartésienne, mais la nuit, elle est bachelardienne, et c'est vrai. Et là, je retrouve avec Bachelard et avec ses Inuits un pouvoir considérable pour sentir le battement du monde.
Ouais. Alors, sauf que vous n'êtes pas totalement critique de la science, parce que vous dites, par exemple, que les neurosciences auraient beaucoup de choses à nous apprendre sur l'animisme, par exemple.
Mais d'abord, les neurosciences, qui font des progrès considérables, nous font saisir que ces hommes disposaient de ce qu'on appelle la perception de la cinquième force. C'est ce que Ernest Solvay a démontré de façon brillante, et qui nous fait saisir qu'il y a un battement du cœur dans la nature. Et les Inuits qui m'appelaient l'homme qui parle avec les pierres, parce que toute ma vie, je me suis passionné pour la géocryologie, c'est-à-dire un équilibre entre les pierres qui sont détachées des grands versants nord-groenlandais, qui s'accumulent en chaos, c'est-à-dire c'est un éboulement, et puis avec le temps, car c'est la longue, très longue durée dans ces déserts très lointains, 500 millions d'années, je m'intéresse à l'ordovicien, c'est-à-dire les premières mers qui recouvrent le socle, et là, ces miettes de pierre provoque naissance de marne, d'argile, et peu à peu, l'ordre de la nature s'établit dans
ce
désordre.
Il y a une mémoire. Là aussi, il y a une mémoire dans ces pierres. C'est-à-dire que vous montrez que ce sont des organismes vivants.
Or, cette pierre que j'étudie passionnément, il se trouve que les Inuits l'écoutent, car ils perçoivent son battement. Et au laboratoire, j'ai pu sentir que dans ces pierres, dans les canalicules, il y a des substances humides qui ne gèlent qu'à des températures positives, plus 40 degrés. Donc une petite pierre connaît toute une dramaturgie. À l'extérieur, c'est moins 4, à l'intérieur, c'est plus 40. Ça, c'est l'histoire de l'univers. Il y a une des complexités extrêmes que les Inuits, comme les peuples premiers qu'ils soient, les Nambiquara de mon ami Lévi-Strauss, ça peut être les Australiens des déserts, les Papous, tous ces peuples en arrière de l'histoire perçoivent cet ordre que nous, dans nos sens très fatigués, nous n'avons plus. Nous n'avons plus ce savoir paléolithique.
Jean Mallory, on va écouter l'extrait du film « Inuk » de Mike Magidson. On l'a volontairement pas traduit pour entendre aussi la langue du peuple inuit. Voilà, à la fois la langue inuite et la langue danoise, Jean Mallory, et la vie d'un jeune homme, Inuk, qui va se perdre dans la ville et qui va perdre aussi un peu de son âme.
C'est tout le sens de mon livre. Le livre suit un itinéraire qui a commencé en effet dans les expéditions Paul-Émile Victor sur le grand glacier du Groenland.
Oui.
J'ai été désigné par l'Académie des sciences pour aborder ces grands problèmes de géocryologie, de géomorphologie sur la côte ouest du Groenland. Peu à peu, dans le cours de deux missions, j'ai pu préciser cet équilibre des pierres que je vous ai évoqué, ce battement entre une terre qui se déleste du glacier et qui, à ce moment-là, s'élève, ce qu'on appelle la glacio-isostasie, et puis les mers qui, du fait de l'apport de l'eau, vont monter, c'est le statisme, les plages soulevées. tout ceci faisait l'objet de mes travaux. Et puis je suis parti à Tulé. Comme je vous l'ai dit, j'étais seul, en immersion. Et peu à peu d'abord, j'ai fait à leur demande de ce peuple inuit complètement isolé à l'extrême nord du monde, sa généalogie. Elle n'avait jamais été faite et ils s'en préoccupaient car beaucoup de femmes étaient stériles. Alors je leur ai dit, c'est peut-être pas les femmes, c'est peut-être les hommes. Donc nous sommes partis avec le fils de ce grand chaman, Gutiketok, et pendant tout l'hiver, en traîneau à chien, par des températures très basses, je suis allé d'igloo en igloo dans 70 familles. Et avec beaucoup de diplomatie, j'ai pu interroger les femmes sur le temps de leur ménopause, leur première menstruation, je précise qu'elles sont entièrement sous la maîtrise du cosmos, c'est-à-dire que l'hiver, elles n'ont plus de règles. Et peu à peu, j'ai pu dresser une généalogie très précise.
Et alors, qu'est-ce que ça révèle alors ?
Elle prouve, sur trois générations, que ce peuple, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, a eu la maîtrise. Ils ont toujours évité
la consanguinité,
la consanguinité en évitant les mariages jusqu'au cinquième degré. Cette approche que j'ai faite avec ces hommes s'est doublée par la suite d'une étude très approchée par l'étude des pierres. Et c'est alors que par des échanges, par des propos, ils ont me fait sentir l'intelligence qu'ils avaient de cette nature. Et cette nature qu'ils écoutaient aux pierres leur permettait de comprendre qu'il n'y a pas d'erreur à faire, il n'y a pas d'excès. Et que cette sagesse qu'on appelle la sagesse des peuples premiers, pour moi c'est la pensée première, est vitale. Je le dis parce que je ne vous convaincrai peut-être pas, parce que c'est tout de même étrange de voir ces mangeurs de chair crue. Bon, on se dit, franchement, ils ne sont pas à l'avancée de la pensée. Mais si, parce que nous, nous allons vers une tragédie. Et la sagesse, c'est ces peuples en réserve de l'histoire qui disparaissent tous les 15 jours, et je le redis, il est nécessaire qu'il y ait un institut de la pensée première.
Mandos et billets de rigueur, intrigues enflammées,
comme si l'on pleuvait,
devant ma porte, prétendants et jeunes premiers,
comme si l'on pleuvait,
nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet,
comme si l'on pleuvait,
des présents chaque jour,
comme si l'on pleuvait,
de l'amour,
comme si l'on pleuvait,
à toi qui me vois mignonne, main tendue, genou fange, ne prends pas garde à ma mise, et sur leurs joues on frange. Jadis ici j'étais reine, et les yeux de ces messieurs sur mon aimable personne se perdent et cela t'étonne. Laïa laïa, rose trémière et joli cœur, les soirs de première,
comme si l'on pleuvait,
nuées de diamants, poèmes posés sur mon chevet,
comme si l'on pleuvait,
des soupirants et des atours en décédé si tu savais,
comme si l'on pleuvait,
des présents chaque jour,
comme si l'on pleuvait,
de l'amour,
comme si l'on pleuvait.
La lune, mignonne, tout m'était dû par un revers de fortune. Voilà que j'ai tout perdu de mémoire d'un monde apôtre qui saurait dire à présent que naguère comme nul autre, je fascinais le tout venant. Aïe aïe aïe, mon doux billet de rigueur, intrigues enflammées,
comme si l'on pleuvait,
devant ma porte, prétendants et jeunes premiers,
comme si l'on pleuvait,
des soupirants et des atours en décédés si tu savais,
comme si l'on pleuvait,
des présents chaque jour, plus que 10 doigts n'en seraient compte,
comme si l'on pleuvait.
La providence et la jeunesse ne durent jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvence, elle m'a mignonne. La providence
danser la jeunesse ne dure jamais, ça je l'ai appris à mes dépens. Donne à présent de quoi manger, mignonne, gagne ton ciel et me sois bonne, ma jouvencelle, ma mignonne.
Comme s'il en pleuvait, Mayra Andrade à l'instant sur France Inter. Jean Malory, vous êtes notre invité cet après-midi, Lettre à un Inuit de 2022, c'est donc ce récit aux éditions Fayard. C'est la résistance qui vous a construit, Jean Malory. Vous ne seriez jamais parti probablement chez les Inuits sans avoir vécu cet épisode de votre vie. Hein.
C'est un moment dramatique de l'histoire de France. C'est cette mobilisation à la demande du gouvernement nazi, de la jeunesse qui est née en 1920, 21, 22, qui doit sans exception travailler 2 ans dans les usines nazies militaires. Pour moi, c'est intolérable. Et ce que j'ai appris, protégé par des réseaux dans le Vercors et dans d'autres secteurs, très recherché par la police, ça a été vérifié par la suite, j'ai appris la détestation d'une intelligence sans morale. Il se trouve que nous étions bien seuls dans cette résistance. C'est vrai, De Gaulle, mais il était loin. Et ces réseaux ne survivaient pas 2 ou 3 mois. Mais il y avait l'Académie française. Pas un mot de Paul Claudel. Il faisait ses prières à Ézéchiel. Pas un mot de Paul Valéry, qui écrivait peut-être ses essais. Pas un mot des autres académiciens. De même pour l'Académie des sciences et le Conseil d'État et le Cour des comptes. C'est la trahison des élites. Je le dis parce que nous vivons des moments très difficiles actuellement en France. Et j'en ai conscience. J'en ai conscience pour les jeunes chômeurs. Ils sont seuls. Et je l'ai appris et j'ai appris donc cette vertu de résistance. Et j'ai décidé, alors que je préparais le concours de l'École normale supérieure, qui était naturellement impossible compte tenu de cette vie de clandestin avec des faux papiers, j'ai décidé d'être construit comme homme par des peuples premiers.
Alors justement, Jean Malory, il y a aussi cette collection Terre humaine des éditions Plomb en 1954, dont le premier justement livre raconte les derniers rois tulés que vous avez écrit. Et c'est ça aussi l'esprit de cette collection, c'est donner la parole à ces personnes qu'on n'entend pas, et pas seulement d'ailleurs les Inuits. Hein.
Vous savez, je me souviens de ma soutenance de thèse, qui était un moment très solennel, une thèse de doctorat d'État, c'est 14 ans de travail. Lévi-Strauss, les structures élémentaires de la parenté, 15 ans.
Ouais.
C'est un moment très important. Il y a une thèse principale, moi c'était les cartes, la géocryologie, j'étais couvert d'honneur. Mais il y avait une thèse secondaire sur les peuples dans leurs croyances. Et mon président du jury, et beaucoup d'autres membres me disaient, enfin, Jean Malory, allez voir plutôt André Breton, les surréalistes, pardonnez-moi, Duchamp, bon, mais enfin ici c'est la science, c'est la Sorbonne. Régner ce racisme, heureusement il y avait Roger Bastide, le grand spécialiste du maître Condomblé, qui a rétabli un peu l'ordre. Mais les sciences sociales ont beaucoup de mal à comprendre que ces peuples ont une pensée. Et c'est ainsi que j'ai créé cette collection.
Mais vous êtes intéressé à tout le monde, les clochards de Paris, les Bretons, les mineurs de fond.
Quels qu'ils soient, pour moi, tout ce qui représente une pensée est minoritaire. Vous l'avez dit, un clochard, De Clercq, qui a parlé, qui a exprimé sa détestation, oserais-je dire, des gens bien. Un braqueur de banque, Claude Lucas, j'ai été en quelque sorte sa conscience au moment du procès. Ouais. Il a été jugé, il avait déjà fait 20 ans de prison, et je dois dire que le livre qu'il a publié, SURT, l'a aidé à se réinsérer. Mais naturellement, les peuples autochtones, à commencer par Triste Tropique de mon ami Claude Lévi-Strauss, qui est, oserais-je dire, l'homme qui m'a inspiré, et qui osait dire, je cherche dans la Sorbonne un sauvage, le seul, c'est vous.
Ouais, alors justement, Claude Lévi-Strauss, l'émission lui était consacrée hier à l'occasion de la sortie de cette biographie, mais je voulais quand même qu'on le réentende avec vous, Jean Mallory. Voilà.
C'est le maître de la pensée sauvage qui m'a habité toute ma vie.
Et c'est le deuxième livre de la collection Terre humaine.
Triste tropique dans ma pensée, c'était un roman. Quand je suis rentré de ma dernière expédition et du Brésil, c'était au début de 1939, j'ai donc eu quelques mois pour essayer de me réincorporer à la vie française avant la guerre et la mobilisation. Et ces quelques mois, je voulais les utiliser, j'avais décidé de les utiliser à écrire un roman. Et un roman qui s'appelait Triste Tropique,
ah oui.
C'était le titre. Et puis au bout de 50 pages... je me suis aperçu que j'étais pas fait pour ça. J'ai donc abandonné. Et quand, bien des années plus tard, en 1954, Jean Mallory m'a demandé d'écrire un livre pour sa toute jeune collection Terre humaine, n'est-ce pas, qui en était à ses débuts, j'ai écrit celui-là, qui n'est pas un roman, mais où, en souvenir, j'ai gardé le titre de ce qu'il aurait pu être, c'est-à-dire « Triste tropique ». Vous savez, c'est un livre que j'ai écrit, je dirais presque, dans l'exaspération et dans l'horreur.
Voilà. Mais vous avez bien fait de le publier, Jean Mallory. Hein. C'est un énorme succès, évidemment.
C'est un succès. C'est surtout une pensée. Mmh. C'est un... Lévi-Strauss, et je suis son disciple, et puis il y a Philippe Descola, et puis quelques autres. Nous militons pour cette pensée sauvage, c'est le titre d'un des livres de Lévi-Strauss. Mais nous avons beaucoup de mal, je vous l'ai dit, à cette grande conférence sur les climats. Bah, il n'était pas présent, j'avais demandé à la direction de l'UNESCO d'envoyer un message à tous les représentants des peuples autochtones du monde entier pour que, avec le temps, ils réfléchissent et disent comment ils ressentent les changements de climat. Mais non, on a fait venir quelques autochtones, mais qui ne représentaient pas, oserais-je dire, une tradition commune, et qui est multiple. Et qui,
oui.
Mais ces peuples nécessairement naturels, qu'ils soient dans les forêts brésiliennes ou qu'ils soient dans le Centrafrique, ont une conception très différente de nous, des pulsations de l'univers et des changements et des moyens d'y faire face. Mais non, nos corps... Je suis ambassadeur à l'UNESCO et j'ai toute ma révérence pour ce grand corps. Mais nous sommes habités par des freins. Et ces freins tiennent précisément à cette autorité que nous, occidentaux, nous nous accordons. Si j'étais un jeune Inuit au Groenland, déculturé, on m'a appris que mes pères, chamans un peu sorciers, c'est ainsi qu'on les appréciait, ne sachant pas lire et écrire, étaient en arrière.
Oui.
Alors on m'a déculturé d'abord avec un enseignement ecclésiastique, et le christianisme a appris que tout cela était péché et qu'il fallait par la pénitence se préparer pour les félicités éternelles. Et puis, le message de Jésus, c'est le partage des biens. Et voilà-t-il pas que peu à peu l'autonomie s'établit au Groenland, j'ai joué un certain rôle, et ils obtiennent tous les pouvoirs, sauf le pouvoir militaire, il n'y a pas une grande armée groenlandaise, ils sont que 57 000, et le pouvoir diplomatique.
57 000, la population, hein.
Population,
c'est pas l'armée.
Qui parle parfaitement sa langue, qui a toutes les structures. Et ils sont enfin autorisés, avec l'autonomie, à aller au Danemark. Alors là, ce christianisme qui était un christianisme de partage, un christianisme évangélique, mais c'est pas ça du tout. C'est des banques, c'est le profit, c'est la réussite. Alors, c'est le malheur. Et ce malheur, quand vous serez à Copenhague, vous le toucherez du doigt. À 100 mètres du Parlement, à Christiania. Christiania est un quartier habité par tous les ratés de l'histoire. Les drogués, les Groenlandais, tous les vaincus qui sont là. C'est une contre-culture. Le progrès, ils n'en veulent pas. Et ils n'ont pas tort. Mais ils ne savent pas. On les a dévitalisés. Ils ne savent pas se dresser.
Alors justement,
et mon livre, c'est pour qu'ils se réveillent.
C'est ça. Ben justement,
c'est une résistance.
Jean Mallory, cette vitalité, justement, qu'on sent chez vous, cette énergie, cette force vitale, vous l'appuisez où ? C'est vraiment ce rapport à la nature, au fond, qui vous anime aujourd'hui ?
D'abord, c'est mes ancêtres. C'est mes ancêtres peut-être écossais. Mais le peuple russe m'a compris très vite. Et ce, dès que j'ai obtenu la chaire de Polaire, la première chaire de l'université française, soutenue par Claude Lévi-Strauss, par mon ami Fernand Braudel, par Lucien Febvre, mais immédiatement les Russes m'ont demandé de venir pour signer un accord. Nous sommes dans une période soviétique. J'ai toujours eu de bons rapports avec les Russes qui voyaient de plus loin. Et les Russes ont parfaitement compris que ce qu'ils appellent les peuples frères, les peuples racines sont essentiels. Tout n'est pas parfait dans ce qui a été envahi et imaginé pour les peuples du Nord sibérien. Mais au moins protéger leur culture, au moins protéger leur langue. Et c'est ce qui fait qu'en 1990, j'ai eu une mission extraordinaire dans la Tchoukotka, pays longtemps habité par les goulags. J'ai découvert que rien n'était parfait dans leur système, notamment que les chamans, par suite du marxisme dialectique léniniste athée, étaient persécutés, voire fusillés. Et c'est lors d'une rencontre à l'école du parti où j'ai rendu compte, je leur dis « mes amis ». J'ai jamais dit « camarades », c'est à l'école du parti à Leningrad, « mes amis ». Lénine s'est peut-être trompé. Marxiste, c'est une doctrine. Dialectique, c'est une méthode. Léniniste, je ne juge pas. Athée, ce n'est pas possible. Les chamans, c'est une colonne vertébrale de ces peuples. Et on a créé une académie polaire, une école, des cadres de 1600 élèves pour tous ces peuples nord-sibériens qui sont 500 000. C'est un modèle. Les Russes sont les plus avancés au monde pour former ces cadres qui peuvent créer ce que René Dumont appelait une écologie humaine.
Jean Mallory, pour terminer, très vite, vous cherchez un mécène en ce moment ?
Oui, moi j'ai été sur un tapis magique et j'ai reçu, grâce à mon ami Alexandre Orlov, l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Paris, un message du gouverneur de Saint-Pétersbourg qui m'offre, au nom du gouvernement russe et de la ville de Saint-Pétersbourg, un palais sur le bord du Grand Canal, Fontanka. Bon, il y a des réparations à faire. J'ai besoin.
Mais vous allez faire quoi dans ce palais ?
D'abord, exalter cette pensée première. Pensée première. J'ai plus dit peuple premier. C'est pas seulement des objets. Donc, nourrir cette résistance des écologistes autochtones contre les pétroliers, contre ceci, contre cela, mais avec une pensée. Viens avec moi un grand préhistorien français, Henri de Lumley. Nous allons entreprendre un programme d'archéologie avec les élèves de l'Académie polaire. La langue française est la première langue étrangère obligatoire. Il y a 1600 élèves. Et c'est les meilleurs, on les enverra à Totavel, à Lascaux. Et c'est ainsi que ce sera avec un enseignement numérique circumpolaire. Je ne dis pas qu'on fomentera la violence, c'est la résistance à la destruction inconsidérée. Le développement est nécessaire, mais avec sagesse.
Et c'est toujours votre combat aujourd'hui. Jean Mallory, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui dans La Tête au Carré. Lettre à un Inuit de 2022, c'est donc ce récit que vous publiez aux éditions Fayard. Merci beaucoup. Ainsi s'achève cette Tête au Carré. Merci à Céline Hila qui était aujourd'hui à la réalisation et Pauline Laverdure à la technique. Dans un instant, ce sera Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel. Bonne journée.